À la poursuite des discussions, hier, les délégations politiques se sont retrouvées ensemble autour de Manuel Valls et du conseiller outre-mer du Premier ministre Éric Thiers. Prise de fonction officielle pour le nouveau commissaire de la République, Jacques Bihan est arrivé cette nuit en Calédonie. Ce matin, il a présidé une cérémonie de dépôt de gerbes à la Croix-de-Lorraine. C'est parti pour deux journées de fête à Bouloupari. La fête du cerf et de la crevette a été officiellement ouverte par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Clap de fin pour Croix du Sud 2025 à Wallis et Futuna après 12 jours d'exercice à Wallis. C'était le VIP Day, une journée pour faire le bilan de cette opération. On n'en sait plus sur les circonstances de l'assassinat d'Aboubacar Cissé. Son meurtrier lui a asséné 57 coups de couteau. Le parquet national antiterroriste ne sera finalement pas saisi. Le sport, la Formule 1 avec le Grand Prix de Miami aux États-Unis. Ce matin, le jeune Kimi Antonelli, 18 ans, a signé la pole position de la course au volant, de la course sprint au volant de sa Mercedes. Et puis en Calédonie, le coup d'envoi de la saison des rallyes. Les pilotes se retrouvent aujourd'hui sur le tracé de Tomo Valley à Bouloupari. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal, la poursuite des discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Hier, au troisième jour de la visite du ministre des Outre-mer, les délégations politiques se sont retrouvées ensemble autour de Manuel Valls et du conseiller Outre-mer du Premier ministre Éric Thiers. Un moment très attendu puisque c'est la première fois depuis l'arrivée de Manuel Valls mercredi que tous les acteurs étaient réunis autour de la table des négociations. Apparemment, la réunion hier matin a tourné court. Manuel Valls n'a toujours pas remis aux participants le projet d'accord politique, mais il en a livré les grandes lignes. C'est à ce moment que les tensions sont apparues et que la réunion a été suspendue au bout d'une heure environ. Finalement, les discussions ont repris, mais pas en format plénière. Le ministre des Outre-mer a d'abord rencontré les deux délégations indépendantistes, FLNKS et UNI. Il a déjeuné avec Calédonie Ensemble et l'Éveil Océanien. Et à 16h, il a reçu les délégations loyalistes et rassemblements. Difficile de savoir comment les discussions vont se poursuivre. Il était prévu qu'elles reprennent lundi pour 3 jours consécutifs en mode conclave. Le nouveau commissaire Jacques Bihan a officiellement pris ses fonctions ce matin. C'est en effet hier que Louis Lefranc a quitté le territoire après un peu plus de 2 ans passés en Calédonie. Le nouveau commissaire qui a présidé sa première cérémonie en Calédonie, c'était ce matin, Charlotte Coulson.
Oui, il a été accueilli à la Croix de Lorraine où il a effectué un dépôt de gerbes accompagné du ministre Manuel Valls. Cette cérémonie officielle marque le début de sa mission sur le territoire. De nombreux élus ainsi que des représentants d'autorités civiles et militaires ont fait le déplacement pour l'accueillir. La cérémonie est restée discrète. Le haut-commissaire n'a, pour l'instant, pas souhaité s'exprimer. De leur côté, les élus ont aussi préféré garder le silence. Virginie Rufnac a tout de même salué l'arrivée de Jacques Bihan. Une mission importante l'attend.
Il prend la suite d'un haut-commissaire qui a marqué la Nouvelle-Calédonie dans un temps de crise très fort, et avec Louis Lefranc qui avait assumé de très lourdes responsabilités. Nous voyons que nous avons des parcours similaires et que Jacques Bihan est très ouvert. Nous avons déjà été plusieurs fois en contact avec lui avant même qu'il arrive en Nouvelle-Calédonie. Donc on le sent avec une volonté de s'engager auprès des Calédoniens et de s'investir. Et évidemment, nous serons à ses côtés pour faire valoir aussi que les Calédoniens ont le droit à l'ordre républicain, qu'ils ont le droit d'être en sécurité dans ce pays, qu'ils ont le droit d'être protégés, parce que c'est une mission régalienne fondamentale de l'État, qui est indispensable. Et la sécurité en Nouvelle-Calédonie à toute construction de vie, qu'il s'agisse des personnes qui fondent leur famille ou des entreprises qui veulent s'installer en Nouvelle-Calédonie. Et donc à ce titre, les responsabilités exercées par le haut-commissaire sont fondamentales pour l'ensemble des Calédoniens.
La cérémonie a donc débuté à 7h30. Au pied de la Croix de Lorraine, Jacques Bihan a commencé par saluer Sonia Lagarde, le maire de Nouméa. Il a ensuite rencontré les élus avec lesquels il a pu échanger quelques mots de bienvenue. Étaient présents le député Nicolas Metzdorf et le sénateur Georges Naturel, la vice-présidente du Congrès Virginie Rufnac, le président du gouvernement Alcide Panga et la présidente de la province sud Sonia Baquès. Le membre du gouvernement Christopher Gigès a également assisté à la cérémonie. Aucun élu indépendantiste n'était en revanche présent. Du côté des autorités militaires, le général de corps d'armée Pierre Poti, commandant de la gendarmerie Outre-mer, a fait le déplacement. Il était accompagné du général de division Nicolas Mathéos, le commandant de la gendarmerie, et du général de division Yann Latil, commandant des forces armées en Nouvelle-Calédonie. On notera également la présence de Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de la France dans le Pacifique, celle de la directrice de la police nationale de Nouméa, Marjolie Ghisoli, ainsi que du procureur de la République Yves Dupin. Jean-Louis Laval était également présent pour représenter le Conseil économique, social et environnemental de Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie. Le haut-commissaire Jacques Billan et le ministre des Outre-mer Manuel Valls ont ensuite pris la route pour Boulou-Paris pour rencontrer la population lors de la fête du cerf et de la crevette.
La fête de Boulou-Paris qui bat donc son plein sur l'hippodrome de la commune. Le public est au rendez-vous de cette 27e édition de la fête du cerf et de la crevette. La journée a commencé avec une cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée en présence du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, et du nouveau commissaire Jacques Billan, du président du gouvernement, Alcide Ponga, des représentants du Congrès, de la province sud ou encore du maire du Mont-d'Or, Eddy Le Courrieux, des personnalités qui ont visité les différentes tentes présentes sur le site. Pour le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, il s'agissait de rencontrer la population.
C'est une belle matinée, d'abord parce que nous recevons le nouveau haut-commissaire, qui est juste débarqué de l'avion, M. Jacques Billan, qui a déjà pu assister à cérémonie patriotique avec le dépôt de la gerbe à Nouméa. Et puis, je crois que c'est un beau symbole que nous soyons ici à cette 27e foire de Boulou-Paris, à cette fête de la crevette et du cerf, parce que ici, on est au cœur, au fond, de la Nouvelle-Calédonie, dans une commune où il fait bon vivre ensemble et on retrouve au fond toutes les origines qui font la richesse de la Nouvelle-Calédonie, toutes ces activités aussi économiques, artisanales, agricoles. Et c'est aussi un symbole de dire que la Nouvelle-Calédonie a un potentiel et que c'est à travers ce type d'exemple qu'on trouvera, je l'espère, le chemin de la sagesse et de l'intérêt général. Voilà, c'est pour ça que je suis heureux d'être là avant de rencontrer à déjeuner tous les maires de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'ils comptent, ils sont sur le terrain et ils font précisément vivre les gens ensemble.
Et tout au long de ce week-end, de nombreuses animations seront présentées. L'épluchage de pommes de terre organisé par le CEF, le dépeçage de cerf bien évidemment, ou encore le traditionnel lancer de claquettes pour le maire de Boulou-Paris, Pascal Vittori. Cette journée a très bien commencé.
Ça s'est très bien passé. Je crois qu'il était heureux d'être là au milieu des Calédoniens à Boulou-Paris. Ça lui a permis de rencontrer beaucoup de monde, de discuter et puis de goûter les spécialités locales. Je pense que c'était une belle demi-journée.
Alors justement, des retours de sa part, de la part des visiteurs, du public ?
Oui, ce qu'il a pu constater, c'est qu'effectivement, en brousse, les gens se côtoient, les gens vivent ensemble. Et donc ça lui a donné des idées pour les négociations qu'il essaie de mener, c'est-à-dire que c'est ce qu'il voudrait pour la Nouvelle-Calédonie, c'est que les gens arrivent à vivre ensemble dans la paix et dans la fraternité.
Présent également pour l'ouverture de cette fête du cerf et de la crevette, Alcide Ponga, le président du gouvernement. Pour lui, cette fête est l'occasion de se revoir après une année 2024 troublée évidemment par les émeutes insurrectionnelles.
J'ai l'habitude de venir à cette fête-là, ça fait depuis longtemps que je viens chaque année. Voilà. La particularité cette année pour moi, c'est que je viens en tant que président de gouvernement et c'est bien, ça fait du bien après tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, dans le contexte qui se passe, etc. et tout. Un bel accueil ce matin du comité, des coutumiers et puis du maire avec l'ensemble du conseil municipal et de la population. Et c'est ça la Nouvelle-Calédonie. Et ce que je veux dire, c'est que ça nous laisse un message d'espoir à nous qui sommes en responsabilité dans les discussions pour avancer, parce que les Calédoniens attendent à ce qu'on trouve un chemin partagé entre tous et qu'on puisse avancer. Je pense que c'est le message que nous donne cette fête.
Et depuis l'ouverture des stands ce matin, les visiteurs sont très nombreux à circuler entre ces stands proposés sur l'hippodrome de Boulou-Paris.
C'est le stand Régal de Ouaméni déjà. Alors on a du saucisson de cerf, du flux en cerf, pas de mélange, du flux en cerf, avec pimenté. On a des saucisses de cerf aussi congelées. On a de la terrine de foie de cerf, on a de la terrine de volaille. J'ai du jambon de cerf. Et on a de la mousse de thon aussi. Et en dessert, on a des panna cotta que ma compagne fait. Et puis voilà, après on a plein d'autres choses, la confiture, des petits gâteaux, des saucissonnettes. J'ai fait goûter au ministre la salade de cerf. Alors je sais pas s'il m'a menti ou quoi, il m'a dit qu'elle était très bonne.
Je vous propose des biscuits faits maison. On a toutes sortes de biscuits qui vont du végétal, sans gluten, sans matière grasse, aux cookies traditionnels. Il y en a vraiment pour tout le monde. On a aussi des pâtes à tartiner, du nougat fait maison et artisanal de Bourail.
Alors, ministre venu dans votre stand.
Et il a même goûté mon nougat, il a bien aimé.
Notre stand, c'est à Champuté-Nessadiou. Donc on propose des saucissons de cerf nature pimentés, des jambons de cerf, des biltong de cerf. Donc le biltong, c'est de la viande séchée. Ça, c'est tout ce qui est charcuterie. Ensuite, après, on a des achats, de légumes, oignons, coco, bambou.
Des propos recueillis ce matin par Kalinda Boicou. La 27e fête du cerf et de la crevette, c'est jusqu'à 18h ce soir sur l'hippodrome de Boulou-Paris. Les portraits ouvriront demain entre 8h et 16h.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et la réponse à la question d'hier, et vous êtes très partagé, 50% des auditeurs d'Erarbé estiment que le ministre des Outre-mer est trop alarmiste quand il déclare que c'est un accord ou le chaos. Ils sont aussi 50% à estimer qu'il n'est pas trop alarmiste. Merci de votre participation et rendez-vous désormais lundi pour une nouvelle question du jour. Clap de fin pour Croix du Sud 2025 à Wallis et Futuna après 12 jours d'exercice à Wallis et Futuna. C'était le VIP Day hier, une journée pour faire le bilan de cette opération qui a mobilisé, rappelons-le, près de 3000 soldats de 18 nations différentes, États-Unis, Allemagne, Japon, Pérou, Royaume-Uni, Australie, Fidji, France bien évidemment. Une 11e édition de l'exercice Croix du Sud, jugée très positive par le général de division Yann Latil, commandant des forces armées en Nouvelle-Calédonie.
C'est un bilan très positif. Nous avions une ambition qui était importante, avec de gros défis à relever, une projection à plus de 2000 km de nos bases de préparation, associée à cet exercice 18 pays qui participaient. Et nous avons pu réaliser l'essentiel des objectifs que nous étions fixés. Alors nos objectifs, c'était de pouvoir déployer une force de 1 millier de personnes, de soldats essentiellement, mais aussi d'organisations non gouvernementales qui, sur le territoire, pouvaient aussi, à côté de nous, venir en secours aux populations. C'était notre principal objectif et on est arrivé à déployer l'ensemble de ces personnels, pouvoir tous travailler ensemble. Donc c'est très positif pour nous. Il y avait un deuxième objectif, c'était renforcer encore le lien avec les Wallisiens, les Futuniens. Les Fang ont un lien qui est très fort avec ce territoire. Parce que c'est nos voisins, parce que c'est ma responsabilité aussi d'assurer la protection des Wallisiens, des Futuniens. Et puis, plus globalement, les forces armées françaises ont un lien très fort avec les Wallisiens, les Futuniens. Beaucoup des enfants de Wallis, beaucoup des enfants de Futuna choisissent de venir servir dans les forces armées. Donc venir vers eux, c'était aussi un signe qu'on voulait marquer.
Et de nombreuses personnalités institutionnelles avaient fait le déplacement hier à Wallis. Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France pour le Pacifique, mais aussi les ambassadeurs et ambassadrices de France en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Vanuatu, aux îles Salomon, aux Samoa, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est à la préfecture que le VIP Day a commencé avec les honneurs militaires. Puis la cérémonie de clôture s'est déroulée sur la place Agathe-Ossoyanné. Pour terminer, les représentants institutionnels se sont rendus à la résidence du préfet pour un temps d'échange avec les troupes déployées pendant ces 12 jours. Moment apprécié par le préfet des îles Wallis et Futuna, Blaise Gourtet.
Une vraie réussite et je tiens vraiment à remercier les forces armées en Nouvelle-Calédonie, mais pas seulement, puisqu'il y avait 17 pays qui étaient là avec eux. Et ça a permis de renouer des contacts avec Tonga, avec Fidji, avec Samoa, tous les voisins du Pacifique avec qui on n'a pas beaucoup de liens aujourd'hui et ce sont des liens qu'on doit développer. Et l'exercice a été une bonne occasion pour ça. Bah, Wallis et Futuna sont deux petites îles de 11 000 habitants en tout, donc voir arriver d'un coup 1 000 militaires pendant les 15 jours, c'est vrai que c'était un grand événement, ça demandait beaucoup de préparation auparavant, mais ce qui est satisfaisant, c'est que voir les contacts se sont noués, les militaires ont œuvré aussi au bénéfice de la population, pas seulement pour des exercices. Puis bah oui, ça s'est bien passé. Ça faisait probablement plus de 80 ans qu'il n'y avait pas eu autant de militaires à Wallis et Futuna.
Des propos recueillis hier à Wallis par Léo Fichou. Et c'est à Nouméa que va se clôturer officiellement l'exercice Croix du Sud, avec un programme décliné tout au long de cette journée de samedi, Charlotte Coulson.
Oui, rendez-vous à la base Chalex à Nouméa ce matin pour rencontrer les unités des forces armées et les ONG qui ont œuvré pour la réalisation de l'opération Croix du Sud. Ce sont plus de 1000 hommes et 150 tonnes de matériel qui ont été déployés à Wallis et Futuna au cours de ces deux semaines de simulation. Une opération qui nécessite un travail de coordination important, un vrai challenge pour le lieutenant-colonel Swadji. Elle est chef de la logistique des forces armées en Nouvelle-Calédonie.
Déployer 1000 hommes venus de partout avec 150 tonnes de matériel, ça reste un challenge de le déployer à 2000 km d'ici avec toutes les contraintes aériennes, maritimes, les contraintes administratives, douanières, phytosanitaires et PAF. Et il a fallu coordonner pour être sur objectif. Nous avons réussi, nous avons déployé ces Land Group et ces ONG toutes les 48 heures sur les quatre phases qui avaient été donc mentionnées. La phase donc de reconnaissance avec le saut en parachute, la phase de déblaiement et d'évacuation et de dégagement des routes, et la phase d'évacuation sanitaire, et enfin la phase d'évacuation info du CRER. Donc à partir de là, on a pu regrouper la population et puis les orienter vers une évacuation suite à une catastrophe naturelle.
Et parmi les moyens déployés qui ont permis le succès de l'opération, des mini-drones de reconnaissance étaient pilotés par la section drone au RIMAPNC. Ce système existe depuis de nombreuses années déjà, mais est de plus en plus utilisé dans les missions humanitaires. Les engins étaient présentés ce matin aux forces armées des 18 nations participantes, réunies à la base Chalex, et c'est le lieutenant Arnaud qui était aux manettes. Il est le chef de la section drone au RIMAPNC.
Notre mission principale, c'est d'acquérir les informations dont a besoin notre chef pour conduire ses opérations. Typiquement, la mission, ça va être de reconnaître les axes de communication, les routes, déterminer s'ils sont praticables, rechercher des zones où il y aurait eu des destructions en raison des catastrophes naturelles, climatiques, les incendies, ce genre de choses, de manière à ce que le chef, à l'échelon supérieur, puisse orienter ses troupes, ses efforts, pour intervenir sur ces éléments. On a été déployé à partir de l'aérodrome de Wallis-Ifo. C'est de là qu'on les faisait décoller. Et compte tenu de la taille de l'île, qui est quand même relativement petite, on a été en mesure de couvrir l'intégralité de la surface de Wallis.
Et évidemment, cette opération de simulation de catastrophe naturelle n'aurait pas été possible sans la participation des ONG. Parmi elles, le Secours catholique, la Croix-Rouge, l'Ordre de Malte ou encore la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie, qui a transporté 2 palettes de nourriture à Wallis et Futuna, soit plus d'une tonne de denrées alimentaires. Betty Levanquet est présidente de la banque.
Depuis l'année dernière, on travaille sur cet exercice avec des réunions. Je me suis débrouillée pour savoir où atterrir, comment. Ça a été vraiment un vrai exercice, hein, parce que quand vous allez dans un pays que vous ne connaissez pas du tout et que vous devez acheminer de la nourriture que vous allez distribuer, faut que vous sachiez où, comment. Et ça, ça prend du temps. Et bon, écoutez, je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, ça s'est bien fini puisque mes 3 bénévoles ont pu partir et distribuer les 2 palettes de nourriture sur place à Wallis et qui ont été distribuées hier avec le père Soane Malivao du presbytère de Moua.
Et vous l'avez entendu et peut-être vu aussi dans le ciel ce matin, 7 avions et hélicoptères des armées françaises, américaines et australiennes ont fait une démonstration de vol au départ de Tontouta.
Et notez qu'une cérémonie militaire de fin d'exercice aura lieu tout à l'heure entre 17h et 17h30, place des Cocotiers. Il est midi et 20 minutes, on va marquer une première pause dans le journal. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
À vos agendas, les 3 et 4 mai pour la fête du cerf et de la crevette, venez faire de bonnes affaires. De la bonne viande, 100% locale, 100% savoureuse à prix de gros. Sautez de veau, longe de porc, cuisse de cerf, n'oubliez pas votre glacière.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
RRB, la suite de votre journal avec Lionel Sabot.
Et l'actualité en métropole, une envie obsessionnelle de tuer. La procureure de Nîmes a fait le point tôt ce matin pour nous sur le profil du meurtrier d'Aboubacar Cissé, assassiné, vous le savez, dans la mosquée qu'il fréquentait et dans le Gard. La magistrate a décrit le meurtre particulièrement violent. Stéphane Burguette pour Europe 1.
57 coups de couteau, une scène de crime sanglante, un lieu de culte bafoué, rien ne permet à ce jour de supposer que la victime avait déjà croisé son agresseur qui manifestait une envie obsessionnelle de tuer mais sans revendication idéologique. Ce qui explique que le parquet national antiterroriste n'a pas été saisi, explique la procureure de la République de Nîmes, Cécile Jansac.
Il est apparu que l'agression était le résultat d'un individu ayant agi dans un contexte isolé, sans revendication idéologique ou lien avec une organisation qui diffuserait une revendication idéologique qu'elle entendrait porter par l'intimidation ou par la terreur. Les ressorts pour agir de l'agresseur sont très vite apparus comme profondément personnels, envie de tuer, quelle que soit la cible, et fascination morbide. Les faits apparaissent donc à ce stade construits autour d'une envie obsessionnelle de tuer une personne.
Le suspect avait déjà été signalé puis banni du réseau social TikTok pour des vidéos particulièrement inquiétantes qui laissent supposer une possible préméditation du passage à l'acte mais qui interrogent sur la santé mentale du jeune homme.
Stéphane Burgat, le correspondant d'Europe 1 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'ajoute que la famille d'Aboubacar Cissé sera reçue lundi par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur qui était en déplacement la nuit dernière à Metz, un déplacement dans un centre de rétention, l'occasion pour lui de faire de nouvelles annonces.
Dès l'an prochain, nous allons en ouvrir 3 de plus qui seront à Dijon, à Dunkerque, à Bordeaux et qui permettront de porter la capacité sur le sol métropolitain de 1950 à peu près 2400 places. L'autre point, c'est qu'on puisse allonger pour les individus dangereux, notamment pour les criminels sexuels, le délai de 90 jours qui est le délai normal, commun, de l'aligner à 210 jours qui est le délai dans lequel on peut retenir des individus aussi dangereux que les terroristes.
Bruno Retailleau en déplacement à la nuit dernière dans un centre de rétention de Metz. Dans l'actualité de ce samedi midi également, 13 des 21 suspects soupçonnés d'avoir participé de près ou de loin à des attaques contre des centres pénitentiaires ces dernières semaines ont été présentés à la justice et mis en examen. 7 mises en cause sont actuellement en détention dans le cadre de ces affaires. Parmi eux, le cerveau présumé de cette série d'attaques, un membre de la DZ Mafia. L'actualité politique en métropole avec une question. Jérôme Guedj, député PS de l'Essonne, est-il lâché par son propre camp ? Déjà malmené et exfiltré d'une manifestation place de la République la semaine dernière, le député PS a été une nouvelle fois agressé par des individus d'ultra-gauche lors du défilé parisien du 1er mai. L'élu dénonce la complaisance de la gauche sur l'antisémitisme. Maïlène Trémollet pour Europe 1.
Jérôme Guedj condamne, je cite, ceux qui usent de la violence, tout comme ceux qui la banalisent. Une nouvelle entaille dans l'unité fragile de la gauche, de plus en plus fracturée entre deux lignes à l'approche du congrès du PS. Celle d'Olivier Faure, d'une part, qui cultive l'ambiguïté avec la ligne ouvertement pro-Gaza de Jean-Luc Mélenchon, et celle du reste du parti, d'autre part, qui dénonce la stratégie de brutalisation et de fracturation de l'espace public appliquée par les insoumis. Il faut dire que l'émotion dépasse les rangs du PS, puisque Jérôme Guedj aurait reçu un appel du Premier ministre lui-même. De son côté, la chef de file des écologistes, Marine Tondelier, qui avait refusé de répondre sur l'existence ou non d'un antisémitisme d'extrême gauche, a fini par revenir sur ses propos en ces termes. « Je présente mes excuses auprès de toutes celles et ceux que l'imprécision de ma réponse a pu heurter », a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux. Tandis que l'insoumis Manuel Bompard s'est contenté de condamner le fait de régler des désaccords politiques par la violence, sans nommer pour autant explicitement le Parti Socialiste.
Maïlène Trémollet du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron tente-t-il de peser sur le choix du futur pape? C'est ce que pense une partie de la presse italienne. À 5 jours maintenant du début du conclave, plusieurs journaux italiens accusent le président de la République d'interventionnisme. Explication Arthur Delaborde pour Europe 1.
C'est une manœuvre de l'extrême droite italienne, explique-t-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron, en assurant que le président d'une république laïque ne se mêle évidemment pas de l'élection du pape. Selon plusieurs quotidiens italiens, le chef de l'État aurait tenté de s'immiscer dans le conclave, en particulier lors de 2 repas en marge des funérailles du pape François ce week-end à Rome. Le premier avec Andrea Riccardi, influent fondateur de la communauté de Sant'Egidio, et le second avec plusieurs cardinaux français, dont Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille, qu'Emmanuel Macron chercherait à favoriser. S'il parvenait à élever son cardinal préféré au trône pontifical, le chef d'État français retrouverait instantanément du poids international. Analyse par exemple le quotidien Libéraux, qui soupçonne également Emmanuel Macron d'agir par antagonisme personnel avec la première ministre italienne Giorgia Meloni. Déjeuner avec les cardinaux français est une tradition entretenue par tous les présidents de la 5e qui ont été confrontés au décès d'un pape, répond un proche du chef de l'État. Avant de conclure, le Vatican mérite mieux que ses veines polémique.
Arthur Delaborde du service international d'Europe 1, midi 26 minutes, une dernière pause, dans un instant nous parlons sport.
Jusqu'au vendredi 30 mai, gagnez un séjour au Sheraton Deva. Un cadeau d'une valeur de 153 000 francs. Logé 3 nuits en bungalow traditionnel, petit déjeuner inclus pour 2 personnes, offert par le Sheraton Deva. Pour jouer, c'est facile. Envoyez maintenant chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 30 mai à 14h, 371 francs par SMS. Ressourcez-vous dans un cadre exceptionnel au Sheraton Deva. Le resort vous accueille 7 jours sur 7 dans ses chambres, bungalows et suites avec cuisine équipée à tout petit prix. Profitez aussi de ces restaurants, du spa deep nature et du golf. Toutes les infos et actus sur la page Facebook et Insta de l'hôtel. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Il est midi 27, la suite de votre journal avec le sport.
Oui, les sports mécaniques pour commencer. La Formule 1, la 6e manche du championnat du monde. Pilotes et écuries sont ce week-end à Miami, aux États-Unis.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et tôt ce matin pour nous, c'est couru la seule séance d'essais libres, mais aussi la séance de qualification de la course sprint qui sera à suivre demain matin pour nous. Une qualification avec une surprise, c'est le jeune Kimi Antonelli, 18 ans, c'est le plus jeune pilote du plateau qui a signé la pole position devant au volant de sa Mercedes. Il a devancé les McLaren d'Oscar Piastri et de Lando Norris. Côté français, Isaac Hadjar sur sa Racing Bull a signé le 9e temps de cette qualif, 12e temps pour Esteban Ocon au volant de sa Haas et 13e chrono pour Pierre Gasly sur son Alpine.
On part avec les pneus un peu froids et dès le premier virage je pars complètement en glisse et je perds 2 dixièmes dès le début et le grip est venu plus tard dans le tour, donc je pense qu'il y a certaines choses qu'on a apprises sur les pneus, mais c'est vrai qu'avec un tour en qualif ça laisse pas beaucoup de temps pour réagir, donc je pense que ça a été compliqué en FP1, on a réussi à améliorer certaines choses, donc il y a quand même du positif. Maintenant il va falloir essayer de trouver plus de performances pour demain.
Et la course sprint de ce Grand Prix de Miami sera à suivre demain matin pour nous à partir de 3h, elle sera suivie de la séance de qualification de la course principale, le Grand Prix qui sera à suivre lundi matin pour nous à 7h.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Allez, quelques mots de football avec la 32e journée du championnat de France de Ligue 1 ce week-end. Ce matin, en ouverture de cette journée, Nice recevait Reims. Les Niçois sont imposés 1-0. Nice qui reste donc en course pour une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Cette journée va se poursuivre demain matin pour nous. 3 matchs au programme, Strasbourg, Paris Saint-Germain, Toulouse, Rennes et Saint-Etienne à Monaco. Et puis le sport en Calédonie avec ce samedi la reprise du championnat de Nouvelle-Calédonie, des rallyes avec le rallye de Tomovalley. 14 équipages sont engagés pour cette première manche. Le programme va être chargé tout au long de cette journée. Romain Léandro est le président de l'association sportive automobile de Nouvelle-Calédonie.
On a 5 spéciales la journée sur la grande spéciale et 3 le soir à partir de 17h30 jusqu'à 20h. 3 petites super spéciales là, de nuit. On a un beau petit plateau, on a réussi à réunir presque tout le monde, c'est déjà pas mal. Avec tous les pilotes qui répondent présent, ça fait toujours du bien, surtout quand on relance comme ça avec le nouveau bureau, c'est pas facile.
Et le départ de la première spéciale de ce rallye de Tomovalley a été donné ce matin à 10h. Du footvolley également, après des étapes à Nouméa en 2024, puis à Point-d'Imier en février dernier, la journée FootNC est de retour ce week-end à Lifou, à la base de voile de Wey. Cette fois, l'événement est prévu sur 2 jours. L'objectif pour Bastien Antoine, l'organisateur, c'est avant tout de rassembler.
Tout le monde se retrouve un petit peu autour du sport. Ça reste positif pour la santé, positif pour la mixité sociale, pour l'émancipation de la jeunesse. Donc ça reste très, très positif. Souvent, ces journées, elles sont quand même dédiées surtout à la jeunesse calédonienne. C'est le fond un petit peu de FootNC, de s'investir pour la jeunesse calédonienne. Donc on avait fait une première étape sur Nouméa. On a été dans le nord à Point-d'Imier. Le footvolley, c'est un sport qui est ludique et très spectaculaire. Les Calédoniens aiment les retourner, se battre un petit peu dans le sable. Donc, c'est une très belle journée.
Et la journée FootNC est donc ce week-end à Lifou.